Radio Classique, les spécialistes.
7h39 sur Radio Classique. Bonjour Philippe Doustoblasi.
Bonjour.
Ancien ministre de la Santé, vous demandez, Philippe Doustoblasi, vous demandez à Olivier Véran d'élargir le décret pour permettre à tous les médecins de pouvoir prescrire de l'hydroxychloroquine. Pourquoi cette demande ?
Parce que d'abord, je pense qu'il n'y a rien de pire que l'automédication. Donc, il faut bien que les Français comprennent que ce n'est pas un médicament miracle, qu'il faut s'auto-prescrire. Deuxièmement, c'est un médicament que l'on connaît depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, et avec un électrocardiogramme qui doit être fait avant la prescription. Je pense que tous les médecins qui ont fait 10 ans d'études, qui connaissent très très bien ce médicament, sont à même de savoir si oui ou non c'est bon pour leurs patients. Enfin, j'ajoute qu'une équipe en Chine, puis maintenant d'autres équipes dans le monde, et en particulier celle qui est en France, celle du professeur Raoult, dont
on parle beaucoup,
à Marseille, a montré que au bout de 5 jours d'une association médicamenteuse avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, il n'y avait plus de virus. En tout cas, on ne pouvait pas cultiver de virus à partir de prélèvements. Donc, si vous voulez, je pense que laisser ces traitements uniquement aux patients sévères qui ont des pneumopathies bilatérales et des insuffisances respiratoires, c'est d'autant plus incompréhensible que ce sont des formes qui sont totalement résistantes à ce type de traitement.
Voilà, plus on la donnerait tôt, la chloroquine, plus elle pourrait agir, c'est ça l'idée.
Oui, on voit bien qu'au bout de 7 jours, il n'y a plus de charge virale chez les patients. Ça veut dire que, évidemment, c'est très bien pour les patients qui se sentent mieux, d'après l'étude qui a été faite, qui donc diminue le nombre de complications, mais surtout ne sont plus contagieux. Et donc, c'est bien pour la personne en tant que telle, mais aussi c'est bien pour la collectivité, puisque la contagiosité diminue. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'important à dire. Les médecins hospitaliers, commençons peut-être par les médecins hospitaliers, mais surtout, ne laissons pas les indications uniquement pour les formes sévères.
Philippe Doustoblasi, le professeur Didier Raoult n'a testé l'hydroxychloroquine que sur une centaine de patients. Il n'y a pas eu de groupe contrôle qui permet de savoir véritablement l'efficacité du médicament. Ça suffit quand même pour vous, vu l'urgence ?
Alors, c'est toute la question, puisque d'un côté, il y a des scientifiques qui estiment, et d'ailleurs à juste titre, qu'une véritable étude scientifique telle qu'elle est en général pratiquée, mériterait un groupe témoin. Ça, c'est vrai. Mais le président de la République a dit que nous étions en période de guerre. N'oubliez pas que vous avez, au moment où nous parlons, 5000 Français qui sont dans des salles de réanimation respiratoire avec des respirateurs artificiels. Donc, il a paru à Didier Raoult qu'il était très difficile de dire à quelqu'un les yeux dans les yeux, vous allez avoir un placebo et les autres vont avoir un traitement. C'est la raison pour laquelle il a préféré travailler de la manière suivante, donner immédiatement après un test positif tout de suite l'association médicamenteuse et doser ensuite le virus chez la personne. Je signale quand même que la FDA, la Food and Drug Administration, qui est le plus grand, policiers dans le monde concernant les essais cliniques a permis aux États-Unis depuis 2 jours aux médecins hospitaliers américains de prescrire ce médicament pour des formes symptomatiques et non pas uniquement sévères.
On réclame l'unité nationale en France, mais on s'aperçoit, Philippe Doustoblasi, que cette unité n'existe pas dans la communauté scientifique et médicale aujourd'hui.
Oui, il y a toujours des discussions, et c'est d'ailleurs, je pense, extrêmement pénible. Il ne faut pas polémiquer. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de calmer le débat. D'un côté, il y a ce comité scientifique qui est fait de gens absolument remarquables. Et je pense en particulier au professeur Delfrécy, à Madame Barré-Sinoussi aussi, qui, on peut le comprendre, disent les essais cliniques doivent être faits de telle et telle manière. Mais de l'autre, on voit bien aussi l'urgence dans laquelle nous sommes et on voit bien aussi les résultats que le professeur Raoult présente. Moi, je crois qu'il va y avoir un juge de paix là-dedans. C'est les agences régionales de santé qui, établissement par établissement, ville par ville, département par département, regardent et les taux de morbidité et les taux de mortalité.
Philippe Douste-Blazy, vous faites partie de la réserve sanitaire. Vous travaillez en ce moment pour le SAMU 92 à Garches. Qu'est-ce que vous observez au quotidien?
Ce qu'on observe, c'est que, en fait, le sujet, si vous voulez, pour les gens qui travaillent là où je suis, c'est la priorisation de l'accès aux soins. Ça veut dire qui doit-on garder à la maison, à quel moment on décide de le faire rentrer à l'hôpital, et ensuite, il y a une deuxième question que les réanimateurs se posent, à quel moment on fait rentrer quelqu'un en réanimation. Un des grands sujets aujourd'hui, c'est l'oxygénothérapie. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont cette maladie, qui toussent, qui arrivent parfaitement à gérer cette toux, mais à un moment donné, cette toux se transforme en gêne respiratoire au point que elle n'arrive pas vraiment à s'oxygéner et à respirer. Là, on a besoin d'oxygénothérapie. Et la question, c'est, faut-il aller à l'hôpital? La réponse est oui. Est-ce que l'hôpital peut venir chez vous? C'est la question, parce que pour éviter la saturation des lits d'hôpitaux, j'ai vu que le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris se pose la question de savoir s'il ne faut pas mettre de l'oxygénothérapie à domicile. Mmh. En réalité, le grand sujet, c'est l'âge de 75 ans. À 75 ans, après 75 ans, rentrer en réanimation, bien sûr, on peut le faire, mais il faut savoir aussi que c'est extrêmement invasif pour le corps de quelqu'un.
Une dernière question, Philippe Douste-Blazy. Est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment le pic de l'épidémie en Île-de-France?
Je pense que le pic sera certainement en fin de semaine. Et j'espère vraiment qu'on pourra diminuer ensuite. Tout dépend d'une chose, c'est très très simple, c'est l'importance du confinement. Nous savons qu'un confinement parfait aboutit à une contamination de 0,8, c'est-à-dire qu'une personne contaminée contamine moins d'une personne. Et là, on aura gagné.
Merci beaucoup, Philippe Douste-Blazy, d'avoir répondu à mes questions, l'ancien ministre de la Santé. Vous remettez votre blouse blanche et vous partez à Garches, là, dans quelques minutes?
Absolument.
Merci, très bon courage à vous, Philippe Douste-Blazy, donc mon premier invité sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h47, dans un instant, les spécialistes, deuxième partie.
Retrouvons François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir le Journal des Finances.
Comment les entreprises du CAC 40 affrontent la crise? Les sociétés répondent. Découvrez les nouvelles estimations de profits pour 2020 et nos conseils. À lire aussi les derniers arbitrages des gérants des meilleurs fonds patrimoniaux.
Investir rapporte.
Radio Classique. Renaud Blanc sur Radio Classique.
Les spécialistes, deuxième partie avec Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
On va revenir sur la polémique et les doutes qui entourent le nombre de morts en Chine déclarés par les autorités de Pékin. Plusieurs éléments contredisent la version officielle.
Oui, il y a d'abord des faits qui sont tout de même assez troublants. À Wuhan, la ville berceau de l'épidémie, on a observé ces derniers jours des longues files d'attente de plusieurs heures de familles qui venaient récupérer les cendres de leurs proches en vue de la fête des morts qui est prévue le 5 avril. Une deuxième image, c'est le magazine économique Keijin qui soulève ce lièvre. Dans l'un des 7 crématoriums de Wuhan, des camions livrant 5000 urnes au total ont été vus mercredi et jeudi dernier. Vous avez bien entendu, 5000 urnes pour un seul crématorium, c'est-à-dire le double des 2500 officiels du coronavirus pour la ville de Wuhan et bien plus que les 3311 morts déclarés à l'heure qu'il est pour toute la Chine. Alors, siège d'un employé funéraire qui affirme que pendant le mois de février, les crématoriums de Wuhan ont tourné à plein régime, à raison de 19 heures par jour, et sur la base d'une crémation tous les quarts d'heure, on explose largement les statistiques officielles, même si tous les décès, bien sûr, ne sont pas dus au virus. On apprend par ailleurs que de nombreux malades qui se sont présentés à l'hôpital ont été renvoyés aussitôt chez eux, après des examens très sommaires, et que les médecins de Wuhan ont été chargé par le nouveau secrétaire local du Parti communiste de se rendre dans chaque foyer et de repérer toutes les personnes symptomatiques du virus pour les mettre en quarantaine chez elles. Autant de cas détectés et non contrôlés comptabilisés et autant de morts potentielles qui ne figurent pas dans les statistiques chinoises. Certains avancent le chiffre de 40 000 cibles dans cette région du Hubei, soit 15 fois plus que le bilan officiel.
40 000 morts, effectivement, possible, un mort possible. À quoi serviraient, Emmanuel, ces mensonges de Pékin s'ils sont avérés ?
Eh ben, il servirait, si vous voulez, à montrer que la Chine a su contenir l'épidémie. On en revient à cette gestion politique de la crise que j'ai souvent évoquée ici. En Chine, tout est politique et le pouvoir a peut-être voulu rassurer la population en retouchant les chiffres. C'est ce que dit le docteur Philippe Klein, le Français installé à Wuhan depuis 6 ans, qui fait remarquer au passage que même en France, les autorités ont mis 3 bonnes semaines avant de révéler que les personnes âgées décédées du virus dans les EHPAD n'étaient pas comptabilisées dans le bilan quotidien. Alors pour Pékin, l'enjeu, il est d'abord un enjeu d'image. Si son régime apparaît à l'issue de ces événements à la fois autoritaire, irresponsable et finalement peu efficace, avec un bilan beaucoup plus lourd, eh bien le président Xi Jinping aura du mal à triompher sur la scène internationale et fournir des millions et des millions de masques à l'Europe risque de ne pas suffire. Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui est lui-même touché par le virus, aurait menacé de faire de la Chine un état paria avec toutes les implications économiques que cela suppose.
Merci Emmanuel. Dimitri, enfin une bonne nouvelle. Ce matin avec vous, les masques commencent à arriver.
Eh oui, ça bouge. Hein. Emmanuel Macron, d'ailleurs, se rend ce matin chez Colmy. C'est l'un de nos 4 fabricants de masques type FFP1 et FFP2. Mais derrière, sachez que c'est une armée de PME qui est entrée en mouvement pour nous approvisionner en masques. En 3 semaines, vous avez 180 entreprises dans le secteur du textile, hein, principalement, qui ont développé de très nombreux prototypes à partir d'un cahier des charges précis, hein, fourni par les agences de sécurité sanitaire. Et 80 de ces prototypes ont été validés par la direction générale de l'armement. Au total, donc, ce sont 150 entreprises aujourd'hui, plus de 3 000 salariés qui vont produire, qui produisent désormais 500 000 masques par jour. Alors, ça ne suffit pas, mais c'est déjà pas mal. Et en tout cas, c'est inédit. En 3 semaines, monter une véritable industrie, c'est ça, vraiment, l'effort de guerre avec les soignants, évidemment, en première ligne, et puis l'industrie qui est à l'arrière, avec une coopération publique-privée, comme on n'en a pas vu depuis les 2 guerres mondiales. Hein, quand même, il faut le dire, hein, ces entreprises s'assoient littéralement sur leur marge, elles donnent pour la plupart les masques, se font simplement rembourser les coûts de production. Et l'État, lui, lève les freins réglementaires, centralise les demandes, coordonne aussi avec France Industrie. On a un autre exemple, c'est sur le gel. Vous avez des grands groupes, on en parle beaucoup, L'Oréal, LVMH, hein, qui se mettent à produire du gel, qui ont transformé leur outil de production pour ça. Vous avez de très nombreuses PME qui font pareil. Alors, produire, c'est bien, mais ensuite, il faut vendre et puis il faut livrer. Et pour ça, vous avez une start-up qui s'appelle Miracle, qui a créé littéralement ex nihilo une place de marché où chacun peut dire voilà, j'ai produit tant, où est-ce que je dois l'acheminer. Des coopérations inédites avec par exemple Pernod Ricard qui se met à livrer L'Oréal, toujours pour du gel, et puis Evian qui se met à fabriquer non plus des bouteilles pour l'eau, mais des petits flacons pour contenir ce gel hydroalcoolique. Tout ça est inédit. Hein.
Alors ça se mobilise également, Dimitri, pour les respirateurs.
Eh oui, les respirateurs. Alors là, on est sur un matériel qui est plus complexe à produire que du gel, qui est plus cher aussi, ça coûte environ 20 000 euros la machine. Et c'est vrai qu'en l'absence de traitement pour le coronavirus, c'est un matériel qui est indispensable pour s'occuper des cas graves à l'hôpital, ces fameux respirateurs. On a un consortium qui est en train de se mettre en place autour d'Air Liquide, qui est notre principal fabricant français. Dans ce consortium, on parle bientôt de PSA, de Seb, de Schneider, ou encore de Valeo, avec notamment l'utilisation de machines d'impression 3D pour servir aussi à la fabrication de consommables dans les hôpitaux, de matériels médicaux. Je pense à tous ces tubes, ces petits écouvillons qui sont indispensables pour les fameux tests que l'on fait à travers le nez. Le test aussi, ça c'est un enjeu majeur. Il y a une véritable course à l'innovation, mais aussi à la production. Et là, pour le coup, c'est la France, mais aussi le monde entier qui est confronté à ce problème.
Merci beaucoup, Dimitri. Bonjour, Élodie.
Bonjour, Renaud.
Alors, nous, on va parler de toute autre chose avec, aux Pays-Bas, un tableau de Van Gogh qui a été volé dans un musée fermé en raison de la pandémie de Covid-19.
Oui, les cambrioleurs ont tout simplement forcé la porte d'entrée vitrée du musée Zingerlaren, qui se situe à 30 km d'Amsterdam, avant de s'emparer vers 3h15 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, de l'œuvre qui date de 1884. Visiblement, ils savaient parfaitement ce qu'ils cherchaient dans ce musée, qui évidemment est fermé au public, comme tous les autres, depuis le 1er mars, en raison de la pandémie du Covid-19. Alors, l'un des directeurs du musée, Jan Rudolf Delorme, a réagi lors d'une conférence de presse vidéo, et il a dit qu'on combien il était choqué et incroyablement agacé surtout que ce vol se soit produit en un moment pareil, ajoutant « L'art est là pour être vu, pour être apprécié, pour inspirer et apporter du réconfort, en particulier en ces temps difficiles où nous nous trouvons. » L'œuvre, elle s'appelle « Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps ». Elle avait été prêtée au Zingerlaren par le musée de Groningen, c'est au nord, dans le cadre d'une exposition dédiée à l'art néerlandais, et elle est estimée entre 1 et 6 millions d'euros, selon un expert d'art néerlandais.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous qui écoutons, qui nous sommes à la radio évidemment, et on n'a pas les images?
Oui, évidemment. Alors, c'est un paysage. Au loin, on voit une tour d'une église gothique peut-être, et au premier plan, les poteaux d'une barrière, une haie, une rangée d'arbres sages, la silhouette d'une femme en noir qui semble être surprise. Le presbytère de Nuenen, en fait, Van Gogh le connaissait bien. Vous savez que son père, le père de Van Gogh, était pasteur calviniste dans l'église de ce village. Lui-même, Van Gogh, était quelqu'un de très mystique qui voulait devenir pasteur. Et Van Gogh, qui avait vécu seul dans le nord du Pays-Bas, eh bien, en décembre 1883, retourne vivre dans la maison de ses parents à Nuenen. Il va y rester 2 ans. C'est une période où il a travaillé sans relâche, où il a peint environ 189 tableaux, y compris une de ses œuvres les plus connues, Les Mangeurs de Pommes de Terre. C'est vraiment un pays de pauvreté et de labeur, et il va peindre là-bas des scènes paysannes, artisanales, des portraits de paysans, des tisserands, des paysages. Et c'est une période extrêmement sombre de Van Gogh, une palette réduite qui ignore totalement les couleurs vives. C'est une peinture réaliste et pessimiste. On est très loin des toiles gorgées de couleurs qu'on va voir par exemple dans sa période à Arles.
Alors Élodie, est-ce que ce genre de vol pourrait se reproduire?
Vous voulez dire une sorte de corona-criminalité?
En quelque sorte.
Oui, alors ce qu'on sait, c'est qu'avec le confinement, les délinquants sont presque au chômage technique. Les policiers et les gendarmes constatent une baisse des infractions commises sur la voie publique. Il y a plutôt des arnaques en ligne, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et puis, les particuliers confinés à leur domicile, la gendarmerie leur conseille de profiter du temps qu'ils ont pour faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire vérifier les systèmes de fermeture, les contrats d'assurance et référencer ces objets de valeur.
Merci beaucoup. Élodie, 7h56 sur Radio Classique. Tiens, je vous rappelle qu'à la fin de cette matinale, nous serons en ligne avec le violoncelliste Gauthier Capuçon. Je vous propose quelques notes d'un petit tango. Vous allez voir, c'est très très joli. Gauthier Capuçon. Gauthier Capuçon dans un petit tango avec la pianiste Yuja Wang. Tout de suite, David Barou.